Effectivement, je travaille depuis 1997 maintenant sur les questions de sécurité urbaine. Alors, ça commence à faire effectivement un petit moment. Et ce que j'aimerais peut-être dresser rapidement devant vous, c'est finalement à la fois comment j'en suis venu à travailler sur ces questions et qu'est-ce que j'ai pu observer dans les évolutions de ces politiques de sécurité, dont je dirais la manifestation la plus récente est dans une actualité très brûlante, si je puis m'exprimer, puisque c'est le vote à l'Assemblée nationale de la loi LOPCI 2, que vous avez peut-être suivi un petit peu dans les médias, qui précisément s'inscrit, je dirais, dans une série de votes d'un certain nombre de lois, puisque, pensez, depuis 2002, on a voté pas moins de 13 lois spécifiques sur les questions de sécurité. Le code pénal a été modifié plus de 40 fois, le code de procédure pénale plus de 30 fois, vous avez un certain nombre de modifications, et quand je vous dis 13 lois, ce ne sont 13 lois réellement spécifiques. Il y a tout un tas de lois qui intègrent tout un tas de dimensions par rapport à la sécurité par ailleurs. Bon. Alors, le point de départ, si vous voulez, de mes recherches, donc 97... C'était un moment précis de l'actualité politique du pays. C'était le colloque de Villepinte en octobre 1997. Alors pour les plus jeunes, octobre 1997, donc Bismarck était mort déjà, mais c'était loin. C'était la rentrée politique du gouvernement nouvellement élu. Vous aviez en juin 1997, on a un gouvernement de gauche pluriel qui est à l'époque dirigé par Lionel Jospin. Qui est élu et qui fait sa rentrée politique véritablement en octobre 1997 à Villepinte, dans un colloque, qui est un colloque dans lequel le Premier ministre annonce qu'il va faire de la sécurité l'une de ses principales priorités après la lutte contre le chômage. Alors, je dirais que c'est une première surprise, je dirais, pour l'observateur extérieur, puisque généralement, si vous voulez, historiquement, les questions de sécurité étaient plutôt attachées aux partis de droite, traditionnellement, je dirais. Il suffit d'ailleurs de se reporter quelques années auparavant, le vote de la loi Sécurité et Liberté, en 1980, vous aviez à l'époque le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, qui votait la loi Sécurité et Liberté, et vous aviez une opposition très traditionnelle entre une gauche garante de la liberté versus une droite qui était plus partisane de la sécurité. Donc on a le point de départ, si vous voulez, c'est un étonnement. C'est un étonnement, c'est-à-dire ce passage, vous voyez, de la sécurité de la droite vers la gauche, en disant ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième étonnement, au début de mon travail, ça a été ce que je pourrais appeler les reformulations des termes du débat. C'est-à-dire que, grosso modo, depuis la Seconde Guerre mondiale au moins, il existait un consensus, à la fois à droite et à gauche, comme d'ailleurs chez la plupart des professionnels, sur l'idée que finalement, s'il existait la violence, s'il existait la délinquance, tout cela, c'était ce qu'on appelait à l'époque des ratés de socialisation. On pensait que c'était quelque chose qui était amené à disparaître dans le processus de croissance économique et sociale du pays. On disait, bah, finalement, il y en a quelques-uns qui sont laissés sur le côté, mais tout ça va se résorber. Et à l'époque, ça s'est traduisé très concrètement par une attention très particulière à la réinsertion, au discours réhabilitatif, du genre la prison doit réinsérer, il faut, comme on le disait à l'époque, remettre dans le droit chemin un certain nombre de contrevenants, un certain nombre de déviants, bon, etc. C'est-à-dire, vous voyez, cette dimension, ce consensus réhabilitatif qui était très prégnant dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'au début des années 80. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question, à la fin des années 90, vous avez un discours, vous avez un consensus inverse, je dirais, qui est plutôt un consensus plutôt punitif. Il faut mieux punir, punir davantage. Consensus punitif dont attestait à cette époque-là les taux d'incarcération, puisque la France, à partir de la fin des années 90, bat ses records historiques d'incarcération. Grosso modo, on a atteint en 98, puis en 2004, puis en 2007, les records historiques d'incarcération dans notre pays. Bon. Alors, passage, vous voyez, de la sécurité de la droite vers la gauche, reformulation du consensus antérieur, et troisième élément qui était un élément surprenant à l'époque, c'était l'extraordinaire inflation du discours sur la sécurité dans les discours publics. Alors, discours politique, discours médiatique, je dirais, certains d'entre vous se souviennent peut-être de la campagne présidentielle de 2002, je dirais, où, durant les mois qui ont précédé la campagne, on a finalement pratiquement parlé que de sécurité. Bon, c'était donc, si vous voulez, l'idée que finalement, cette inflation tout à fait extraordinaire du discours sécuritaire, qui venait, et ça, je crois que c'est un élément tout à fait important, qui venait recouvrir finalement toute la question des milieux populaires. Parlait-on d'un problème d'urbanisme, ça ramenait aux questions d'insécurité. Parlait-on de problèmes d'absentéisme scolaire ou d'échec scolaire, ça ramenait inlassablement aux questions d'insécurité. Comme si vous voulez, à cette période, la question de la sécurité, c'était devenu le prisme pertinent pour aborder la question des milieux populaires. Bon, voilà, c'est ces trois interrogations, si vous voulez, que, je dirais, jeune chercheur en début de carrière, j'étais confronté à ça, on va essayer de comprendre un petit peu comment, finalement, tout cela s'est constitué, comment s'est constitué cette espèce de « ça va de soi » sécuritaire qui fait que, dès lors qu'on parle de certains groupes sociaux, de certaines zones géographiques données, tout ramène inlassablement aux questions de sécurité. Alors, ça, c'est un processus, c'est ce que j'ai pu découvrir, qui s'opère entre, grosso modo, la deuxième moitié des années 70 et le début des années 2000. C'est à peu près dans ce moment-là que tout cela se formule, se fabrique, et je vais essayer rapidement de vous dresser quelques-unes des étapes de ce processus sur la manière dont, finalement, ça s'est formulé. Alors, le premier point, qui est un point tout à fait important, c'est que, d'abord, ce mouvement, il ne naît pas de rien. Je dirais, la question de la sécurité, elle n'est pas déconnectée, ce n'est pas une invention qui serait déconnectée d'une quelconque réalité sociale. Il y a d'abord un certain nombre de transformations morphologiques et sociales des quartiers et des milieux populaires, tout à fait importantes, entre, grosso modo, la deuxième moitié des années 70 et nos jours. Alors, je ne vais pas vous faire ici l'histoire des quartiers populaires français, ça serait un peu long, mais je vais juste vous dresser quelques points de repère. La question de l'insécurité ramène assez inlassablement, si vous voulez, à la question des grands ensembles. Les grands ensembles, ce sont ces grands ensembles d'habitat collectif qui ont été construits dans l'immédiat après-guerre, enfin pas dans l'immédiat après-guerre, dans les années 50, à partir du milieu des années 50, qui, alors, pour les plus jeunes et pour qui ne connaissent pas forcément cette histoire, retenez l'idée que la France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, connaît une pénurie tout à fait considérable de logements. Pourquoi ? Le parc privé s'est dégradé avant la Seconde Guerre mondiale. Les destructions liées à la guerre ont détruit un certain nombre de bâtiments. Et surtout, la France va connaître un exode rural le plus important de son histoire. C'est-à-dire que l'industrialisation du pays, la reconstruction, amène dans les villes tout un tas de gens qui, auparavant, étaient dans les campagnes. Ce à quoi s'ajoute, non pas la plus importante vague d'immigration, mais une importante vague d'immigration, d'importation de main-d'œuvre pour assurer la reconstruction. Donc vous avez, grosso modo, un afflux de gens dans les villes et, je dirais, une pénurie de logements. À l'époque, souvenez-vous pas, ou vous avez au moins vu le film avec Christophe Lambert, un hiver 54, l'abbé Pierre lance l'appel au pouvoir public sur la question du mal-logement, etc. Bon. C'est le moment où l'État va se saisir de la question du logement. Bon, c'est-à-dire que pour toute une série de manières, alors avec à la fois des législations, des systèmes de financement, bon, tout un tas d'éléments, les pouvoirs publics vont se saisir de la question du logement. Et on va commencer à construire massivement des grands ensembles pour résoudre cette question du logement. Alors, quand je dis on va commencer à construire massivement, retenez l'idée qu'entre 1955 et 1975, on va construire en France pas moins de 8 millions de logements. 8 millions de logements, dont 6 millions sont au titre aidé. C'est-à-dire, grosso modo, HLM ou 1% logement, etc. Alors, c'est un effort tout à fait considérable. C'est un effort tout à fait considérable avec une idée qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ces grands ensembles qui sont d'aujourd'hui stigmatisés systématiquement comme l'enfer sur Terre, étaient à l'époque considérés comme un mieux-être social. C'est-à-dire qu'on passait très souvent, pour des familles ouvrières, de mal-logement, dans des conditions d'insalubrité, de mal-logement, à un grand ensemble qui, pour la première fois, avait, comme on le disait à l'époque, le confort moderne, c'est-à-dire notamment le chauffage, l'électricité, l'eau chaude, tout un tas de choses. On avait un véritable mieux-être qui était lié à l'amélioration de la condition ouvrière. Alors, la conséquence de ce mouvement, donc de construction massive de grands ensembles, c'est qu'il a fallu construire vite et pas cher. Alors, vite et pas cher, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire qu'on a construit d'abord dans des endroits où le terrain était disponible. On n'a pas construit dans les centres-villes urbanisés de longue date. On a construit dans les périphéries urbaines. Périphéries urbaines, par exemple, en région parisienne, un gros village qui s'appelle Sarcelles, 7000 habitants, on y construit, à partir de 55, un grand ensemble qui comptera 70 000 logements. Non, 55 000 logements, pardon, tant pour moi. 7 000 habitants, 55 000 logements. Vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est tout à fait considérable, vous imaginez, je ne parle pas 55 000 habitants, 55 000 logements. Donc on va construire sur ces périphéries urbaines. Quand on va construire donc sur, alors c'est valable à Paris, c'est valable dans à peu près les grandes métropoles françaises, les terrains d'enquête sur lesquels j'ai mené mon enquête pendant plusieurs années, c'était le Grand Mirail à Toulouse, qui est exactement dans ces considérations, et un certain nombre de villes dans le Val-de-Marne, notamment Créteil et Bonneuil. Alors, construction de ces grands ensembles donc, dans les périphéries urbaines. Et deuxième chose, la forme spécifique que vont revêtir les cités françaises, c'est-à-dire la barre et la tour. La barre et la tour, hein, qui sont deux figures, finalement, qui sont liées à cette modalité de construction rapide. Bon, vous connaissez tous ces petits ensembles où vous avez quelques blocs qui font 5-6 étages, vous savez, et ces carrés, il y en a qui se font face avec très souvent une petite cour au milieu et un porche. La distance géographique entre les bâtiments de ces petites cités, c'est ce qu'on appelait le bras de la grue. Vous mettez une grue au milieu, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on construit. Bref, on a donc, si vous voulez, un moment qui est un moment tout à fait considérable, je vous dis, de construction, qui est lié, vous voyez, à cela. Alors, voilà, je viens d'envoyer 20 ans de logement social en France en 3 minutes et demie, ce qui est rapide, donc s'il y a des questions, on pourra revenir dessus. Ces grands ensembles, retenez, se dégradent assez largement à partir de la seconde moitié des années 70. À cela, il y a plusieurs raisons. La première raison est une raison politique. C'est une raison politique, grosso modo, l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing et de son premier ministre de l'époque, Raymond Barre, transforme assez drastiquement les règles de logement. C'est-à-dire que pour produire l'adhésion à la société libérale que défendaient à l'époque le Premier ministre et le Président de la République, on décide d'essayer de créer une France de petits propriétaires, pensant que les petits propriétaires sont plus conservateurs que des gens qui vivent dans l'habitat collectif. Donc on va favoriser, je ne rentre pas dans les détails techniques, on va favoriser par la législation et par le crédit la construction de maisons individuelles. Et c'est l'époque où la France va se couvrir de ses lotissements. C'est la grande époque des maisons Phénix, des maisons Bouygues. Grosso modo, vous avez partout fleurissent en France un grand nombre de lotissements, si vous voulez, qui vont drainer qui ? Les fractions supérieures de ces grands ensembles. Très souvent des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire que les plus favorisés de ces grands ensembles vont les quitter pour s'installer dans des zones pavillonnaires, parfois d'ailleurs, très souvent distants d'une rue de l'ancien grand ensemble. C'est-à-dire que ces pavillons, parfois, ne sont pas construits très loin. Parfois, c'est tout simplement de l'autre côté de la rue. Bon. Donc, départ des plus aisés. Et dans le même temps, si vous voulez, les réorganisations de l'appareil industriel français liées notamment au choc pétrolier de 73 et de 79, mais pas seulement, on réorganise très assez fortement l'appareil productif français, ce qui veut dire qu'on commence déjà les premières délocalisations, on informatise et on mécanise les chaînes de production. Bon, ça va se traduire, si vous voulez, par des effets assez importants sur le monde ouvrier, avec dès le début des années 80, des choses qu'on a oubliées, un chômage de masse qui frappe les ouvriers, et chez les ouvriers qui frappent particulièrement les ouvriers sans qualification, les très mal nommés ouvriers spécialisés, et parmi eux, particulièrement ceux d'origine étrangère. Bon. Ça, c'est un premier point, donc chômage de masse et précarisation des statuts généraux, c'est le moment où commence à flamber dans ces quartiers l'intérim, les contrats à durée déterminée, etc., etc., le temps partiel subi, etc. Donc vous avez ce double mouvement, vous voyez, de départ d'un côté des plus aisés, et de l'autre côté de paupérisation, fragilisation, précarisation de ceux qui y restent. Et ça, vous voyez, c'est un phénomène que l'on observe dès le début des années 80. Alors bien sûr, ça va avoir des effets tout à fait importants sur les plus jeunes, c'est-à-dire sur les enfants des gens qui sont dans ces grands ensembles. Alors, grosso modo, le chômage des jeunes est pensé comme un problème très tôt. Bon, on est aujourd'hui, vous le savez, sur un certain nombre de quartiers. On a parlé de Grenoble cet été, on a parlé de Clichy-sous-Bois, vous êtes sur des taux de chômage des jeunes des 15-24 ans qui dépassent les 40% dans la plupart de ces quartiers. Vous avez le dernier rapport sur les zones urbaines sensibles qui montre que dans une grande partie des quartiers effectivement de ce type, vous avez des taux 35, 37, 40%, 42% pour certains, je dirais, de chômage des 15-24 ans. Dès le début des années 80, ce chômage est important. Mais surtout, pour comprendre la question de la délinquance, ce n'est pas juste la question du chômage qui nous intéresse. C'est que le rapport à l'emploi et à l'emploi non qualifié va se transformer assez radicalement. C'est-à-dire que les enfants d'ouvriers de ces quartiers ne seront pas ouvriers comme leurs pères. Bon. L'ordre social, malheureusement, pourrais-je dire, fonctionne essentiellement à la reproduction. Social se reproduit bien plus qu'il ne change. Bon. Pour le dire autrement, un enfant d'ouvrier avait dans les années 80 beaucoup plus de chances d'être lui-même ouvrier que d'être autre chose qu'ouvrier. Bon. Mais les enfants d'ouvriers ne vont pas être ouvriers comme leur père. D'abord parce que, je vous ai dit, le chômage de masse commence à les toucher. Parce que, je vous ai dit, les statuts se transforment. Et ça va avoir des effets sur l'un des mécanismes sans doute les plus puissants en matière de délinquance, qui sont les mécanismes de normalisation, de disciplinarisation qui ont fonctionné durant tout le fordisme. Alors, c'est absolument incompréhensible ce que je viens de dire, donc je vais le développer un petit peu. Grosso modo, l'usine a fonctionné pendant très longtemps comme un mécanisme très puissant de normalisation des conduites déviantes. Pensez que la violence des jeunes, c'est pas quelque chose qu'on découvre avec Clichy sous bois. Les loubards, les blousons noirs, les apaches avant eux, des groupes juvéniles masculins avec des comportements violents, vous verrez, l'histoire du pays, et pas que du pays d'ailleurs, on trouve ça également dans tous les autres États, est quelque chose de historiquement assez ancien. Qu'est-ce qui se passait pour les blousons noirs ou les loubards des années 60, 50, 60, 70 ? Pas très souvent, un grand nombre d'entre eux, à un moment donné, comme on le disait à l'époque, se rangeaient des voitures. Ils raccrochaient, ils arrêtaient les conneries. Et quand est-ce qu'ils se rangeaient des voitures ? Comme on disait, les Espagnols ont une magnifique expression pour ça, ils disent « sentar cabeza », c'est-à-dire « poser la tête ». Ils posaient la tête. C'est-à-dire quoi, poser la tête ? Ça veut dire quoi, se ranger des voitures ? Ben, ça veut dire qu'à un moment donné, on se rend compte que le mécanisme fordiste, c'est-à-dire ces loubards qui rentraient à l'usine, à l'atelier, à un moment donné, ils rencontraient un monde qui n'était pas en rupture avec leurs valeurs. La virilité, l'affirmation physique de soi sur une chaîne d'usine, c'est quelque chose qui marche bien. L'anti-autoritarisme, c'est-à-dire le rejet dehors du policier et du parent, ça a fabriqué d'excellentes générations de militants syndicaux et politiques qui s'en prenaient au contremaître, au petit chef, etc. C'est-à-dire que petit à petit, vous aviez une intégration de valeurs, on pourrait dire de rue, dans le monde ouvrier. Et cela s'accompagnait, parce qu'on était dans les Trente Glorieuses notamment, de statuts stables, c'est-à-dire de statuts professionnels stables, qui permettent de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La stabilité professionnelle, c'est une condition nécessaire à pouvoir faire des projets. Si vous ne savez pas de quoi demain est fait, vous saurez encore moins de quoi après-demain est fait. Et on se rend compte que le statut fordiste, c'est-à-dire ces statuts stables, ça permettait aux gens, tout simplement, de commencer à se projeter dans un futur matrimonial, d'enfants, de logement, de vacances, tout un tas de choses, qui petit à petit arrêtaient le temps des petites conneries, le temps des copains. Grosso modo, on décrochait progressivement au fur et à mesure qu'on s'intégrait dans un monde ouvrier relativement stable. Et c'est sans doute pas un hasard aujourd'hui que, précisément, si vous écoutez un certain nombre de chansons de rap, par exemple, une parole omniprésente soit « demain, c'est loin ». Demain, c'est loin, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement que le retour, vous voyez, de forme de précarité quant à l'emploi, quant au futur, empêche, ça prolonge le temps propice aux petites conneries. Donc, grosso modo, vous avez une question, vous voyez, disciplinaire très importante. Alors, cette question donc, du désordre des jeunes, qu'on va commencer à voir dès le début des années 80, c'est-à-dire des jeunes qui traînent en bas d'immeubles, qui font des émeutes collectives contre la police dans un certain nombre de cas, qui font du petit trafic, qui font un certain nombre de choses, ça va prendre un poids politique tout à fait considérable dès ces années-là. Et ça, je reviens au deuxième point de mon propos, si vous voulez, c'est que cette question, elle va être ressaisie politiquement. Ressaisie politiquement, vous avez à l'époque, début des années 80, des commissions, notamment une qui est célèbre, qui est la commission Bonne Maison, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Gilbert Bonne Maison, qui était le député-maire d'Épinay-sur-Seine, qui fait une commission précisément sur la question de la violence des jeunes, qui essaie de réfléchir à ces questions. Et si vous regardez à l'époque, Bonne Maison et la commission Bonne Maison, ce sont tous des élus locaux qui sont dans cette commission. Et qu'est-ce que, si on lit ce que ces gens disent à l'époque, qu'on les interroge par la suite sur qu'est-ce qu'ils cherchaient, ils se disent « c'est des préoccupations d'élus locaux ». Un élu local, si vous voulez, il est préoccupé, on se rend compte par quoi ? Par la maîtrise du peuplement. Il veut pouvoir maîtriser le peuplement de ses quartiers, ne pas concentrer les mauvaises familles dans un seul quartier. Il veut qu'il y ait des patrouilles de police qui passent dans les rues et qui patrouillent à pied, qui soient présentes dans un certain nombre de quartiers. Bon. On voit que ce sont des préoccupations d'élus locaux. Et pourquoi ? Parce que les élus locaux, dès le début des années 80, d'une part, ils sont confrontés directement à ces désordres. Les gamins qui perturbent les structures socioculturelles, qui empêchent la MJC de fonctionner. Les gamins qui dégradent le patrimoine municipal, parce qu'ils taguent un certain nombre de choses. Ils sont confrontés pratiquement à cela. Et deuxième chose, ça c'est le premier point, c'est ce qui est peut-être le plus évident. Mais cette question, elle pose aussi des questions politiques. Pourquoi ? Puisqu'un élu local, son métier, c'est aussi de gérer politiquement les coexistences entre les groupes sur son territoire. Un élu local, son métier, c'est aussi de gérer politiquement ce qui se passe sur son territoire. Et gérer politiquement la coexistence entre des groupes différents. Et dans l'enquête que j'ai pu mener, sur plusieurs terrains, on se rend compte qu'un maire peut difficilement être sourd aux pétitions de citoyens organisés et politiquement actifs. Des associations de commerçants, par exemple. Je travaillais à Bordeaux, notamment. Ben, le maire de Bordeaux peut difficilement rester neutre aux appels des commerçants contre les SDF. Les associations de copropriétaires dans un certain nombre de cités de banlieue. Bon, grosso modo, si vous voulez, on va se rendre compte que vous avez tout un tas d'entrepreneurs politiques, c'est-à-dire de gens qui vont faire des mobilisations politiques sur les questions de sécurité, de tranquillité publique, dans les quartiers, et que ça va marquer partiellement l'activité des élus locaux. Alors, je ne vais pas être très long, parce que je vois que le temps passe, mais grosso modo, les élus locaux, sur les terrains, font trois choses. Je le résumerai brutalement. Rassurer, menacer, négocier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur des communes de droite, des communes de gauche, et on retrouve ces registres de manière différente selon les lieux, mais ces trois registres sont toujours présents. Rassurer. Rassurer, c'est quoi? C'est rassurer les bonnes familles. Rassurer les bons citoyens. Rassurer les bons citoyens, c'est quoi? C'est par exemple installer de la vidéosurveillance. Des caméras qui rassurent effectivement les citoyens. On a pris au sérieux cette question, on a mis de la vidéosurveillance. C'est la police municipale qui se développe à partir du début des années 80. Alors, police municipale, certaines municipalités de gauche disent « Non, on n'a pas de police municipale, on a des agents de tranquillité publique. » Après, les formes, vous avez des formes tout à fait différentes, vous voyez, de forces municipales qui contribuent, si vous voulez, à rassurer les citoyens. Avec d'ailleurs, sur certains terrains, là en l'occurrence, non, je ne dirais pas où c'était, mais grosso modo, des élus qui l'avouent sans phare. Un élu local, qui était le responsable de la police municipale, disait « Donner de l'argent aux associations de quartier, ça ne me rapporte pas une voix, alors que mettre du bleu dans le centre-ville, ça m'assure une clientèle électorale. » C'est clair, ça a le mérite de la clarté. C'est par exemple, vous seriez surpris du nombre de municipalités qui ont des services de protection des personnes âgées, qui par exemple accompagnent les personnes âgées pour retirer de l'argent aux distributeurs. Vous avez ça dans toutes les mairies d'arrondissement parisien, sur mes terrains d'enquête, c'est 5 personnes à temps plein pour une municipalité de 90 000 habitants. C'est pas rien sur les services et sur ce que ça fait. Bon. Bref, il y a tout un tas de dispositifs destinés, si vous voulez, à rassurer les bonnes gens. Le deuxième, menacer. Menacer les mauvaises familles. Menacer les fauteurs de troubles. Alors, c'est là-dedans qu'il faut rechercher tout le discours sur les couvre-feux pour les mineurs, par exemple, sur les arrêtés anti-mendicité, sur les menaces d'expulsion locative. Quand on a des troubles, les fauteurs de troubles, ben vous avez par exemple des municipalités, vous avez le maire qui reçoit avec le substitut du procureur et avec le commissaire de police dans le bureau, on dit oh, attention, si vous continuez, les menaces de tous les maux, on va vous expulser, bon, même si après, juridiquement, on ne peut pas forcément le faire, mais c'est ce type de menace. Et c'est par exemple l'enjeu de ce qu'a instauré la loi sur la prévention de la délinquance, du CDDF, du Conseil des droits et devoirs des familles, dans lesquels le maire a le pouvoir de faire des rappels à l'ordre des contrevenants. Comme le disait un élu de Seine-Saint-Denis, auquel je laisse la paternité de cette expression, en disant on veut faire du maire un maire fouettard. J'aime bien cette expression, même si on s'aperçoit qu'ils sont assez réticents à s'engager sur ce terrain. Donc, rassurer, menacer, négocier, ça c'est beaucoup moins visible comme registre, mais sur tous les terrains, on s'aperçoit que les élus, grosso modo, soit mettre à leur cabinet un jeune de quartier qui assure un lien avec un certain nombre de meneurs de quartier, soit recrute via, alors à l'époque, les emplois villes, puis les emplois jeunes, etc., des animateurs qui, grosso modo, soit négocient des avantages collectifs, un terrain de foot. Enfin bon, vous avez, tout cela fonctionne, même si on en parle beaucoup moins. Bon. Mais ce que je vous ai raconté, il y a des problèmes de transformation des quartiers, je vous ai dit, ça pose des problèmes aux élus locaux, on ne comprend pas comment on arrive à l'hystérie sécuritaire que l'on vit aujourd'hui, cette démultiplication à l'infini d'un certain nombre de lois. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est des problèmes locaux, localisés, qui posent problème localement. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'ai eu pas mal de difficultés à voir comment qu'on passait ces problèmes locaux, très, très pratiques. Vous travaillez sur un contrat local de sécurité, en deux jours, vous savez quel est le nom des 4 familles qui posent problème sur la ville. C'est très très facile, vous savez très vite qui sont les fauteurs de troubles. Tout le monde en parle, ça va très très vite. Comment est-ce qu'on passe de ça, je vous dis, à 13 lois en moins de 10 ans sur les questions de sécurité? Alors, précisément, cette montée en généralité s'est faite essentiellement dans un certain nombre d'associations qui sont les associations transversales d'élus. Association des maires de France, Association des maires d'Île-de-France, Association des maires des grandes villes de France. Vous avez tout un tas d'associations comme ça, transparties d'élus. C'est dans ce travail-là, que dans les années, c'est dans ces lieux-là, pardon, que dans les années 90, va s'opérer la montée en généralité. C'est-à-dire qu'on va passer, vous voyez, des élus qui échangent leurs problèmes localisés vont se retrouver dans un certain nombre de commissions spécifiques de sécurité. Et là, si vous voulez, ça va faire deux choses. Ça va dépolitiser la thématique, puisque grosso modo, vous avez élus de tous les bords qui partagent des problèmes communs. Donc on va voir que le problème de jeunes qui perturbent un quartier, ce n'est pas un problème de gauche, ce n'est pas un problème de droite, c'est des problèmes qui peuvent être communs. Bon. Et deuxième chose, ça va désencastrer ces problèmes du local. Parce que le maire de la commune X, il arrive, il dit, c'est dans mon quartier, c'est la famille X qui pose problème dans le quartier Y. Mais celui de la commune à côté, évidemment, il dit, ben moi, c'est la famille Y qui pose problème dans le quartier W. Bon. Et pour que ces gens puissent parler en commun, il ne faut plus parler des familles. Donc on va monter en généralité, on va parler, par exemple, du problème de l'autorité parentale, du problème de la démission des parents. Vous allez avoir une montée en généralité, si vous voulez, qui va extraire cette question du niveau local. Et c'est comme ça qu'elle va être ressaisie politiquement dans le champ politique par les principaux partis. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, on va voir des élus locaux de gauche comme de droite. Alors, de droite, Pierre Cardot, par exemple, de Chanteloup-les-Vignes, Gérard Hamel, député maire de Dreux. À gauche, vous avez des gens comme Ettore, au Mureau, par exemple. Vous avez donc des gens de gauche et de droite, très souvent avec une position de député et de maire. C'est-à-dire qu'ils sont à cheval, vous voyez, sur le local et sur le national, qui vont, à un moment donné, dans leur parti, ben, grosso modo, monter d'un cran, si vous voulez, prendre de l'importance dans leur propre parti, sur la thématique de la sécurité, dans un contexte très particulier, qui est celui du début des années 90, qui est un moment où le champ politique, dans son ensemble, est préoccupé par un phénomène, qui est la désaffection progressive des milieux populaires, qui se manifeste de deux manières, l'abstention, et le vote Front National. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez, si vous reprenez à l'époque, j'ai fait un certain nombre d'entretiens avec des hommes politiques de premier rang, début des années 90, les gens s'inquiètent que les quartiers populaires ne votent plus. Soit ils ne votent plus, soit quand ils votent Front National. Et ça, c'est un vrai problème, à droite comme à gauche. Et ces élus de gauche et de droite, dont je suis en train de vous parler, vont, de manière plausible, se positionner dans leur parti en disant « Nous pouvons reconquérir les votes populaires sur la question de la sécurité. » Soit l'abstention, je vous rappelle que l'abstention dans les quartiers politiques de la ville, c'est 50% plus 20% de non-inscrits sur les listes électorales. Certains quartiers de Seine-Saint-Denis, pardon, c'est 70% d'abstention plus 20% de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Voyez. Et en matière de vote Front National, on vous a dit, je fais une parenthèse, on vous dit le Front National est le premier parti ouvrier de France, 30% des ouvriers votent Front National. Non, 30% des ouvriers qui votent votent Front National. Mais 70% des ouvriers ne votent plus. Non, mais grosso modo, vous avez une vraie préoccupation, vous voyez, d'un certain nombre de partis de gauche comme de droite. Et ça, ça va avoir un effet tout à fait important, notamment au Parti Socialiste, après 93, qui est, à l'époque, une défaite électorale aux législatives très importante. C'est la ligne d'étiage parlementaire du Parti Socialiste, au niveau le plus bas de ses députés, qui va redonner du pouvoir, si vous voulez, aux élus locaux à l'intérieur du propre parti. Et c'est là qu'on va voir émerger la thématique de la sécurité au Parti Socialiste, dans le programme du candidat Jospin de 95. C'est là que la première fois cette thématique apparaît. Et puis, 97, c'est Villepinte dont je vous avais parlé. Je vous ai parlé de l'intérêt des hommes politiques pour la question de la sécurité. Vous comprenez évidemment comment ça veut dire. Évidemment, les hommes politiques ne sont pas les seuls à s'être intéressés à la sécurité. Et pour cette montée en généralité, pour cette construction de l'insécurité comme catégorie d'entendement, il y a bien sûr d'autres univers sociaux qui y ont contribué. Parmi lesquels les médias, bien entendu, je vais passer rapidement parce que c'est un peu mieux connu, et bien sûr l'université. Je passerai encore plus rapidement parce qu'il ne s'agit pas que je commence à incriminer ma propre corporation. Bon. Alors, les médias. En un mot, l'attention des médias pour les faits divers, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Au XIXe siècle, vous avez tout un tas de médias qui s'intéressent aux faits divers. Vous êtes tous ici abonnés au Nouveau Détective. Bon, donc vous savez que la presse qui existe, Nouveau Détective, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine spécialisé sur les faits divers. Vous voyez les unes dans les kiosques, il égorge sa belle-mère avec un fer à repasser. Bon, j'extrapole à peine, je crois. Bon. Bref, ce qui est plus surprenant en revanche, c'est de voir par exemple la une du Monde en août 2001, délinquance alerte. Bon, effectivement, je dirais, il y a toujours eu une presse. Sur la question du fait divers, c'est beaucoup plus surprenant de voir ce qu'on appelle la presse d'information politique et générale se saisir de cette question. Et Alors, il y a tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir dans le débat, qui sont internes au monde des médias. Vous n'allez pas regretter d'être venu ici. Les médias vont mal en France. Ils ont des problèmes, notamment de financement. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, donc vous repartirez ce soir beaucoup plus riche que vous ne l'étiez. Bon. Et une des manières, précisément, de remédier à ces questions de financement, ça va être une recherche effrénée de l'audience. Et la recherche effrénée de l'audience, ça va passer par, notamment, ce qu'on appelle l'information de proximité. Vous avez dans tous les médias généraux un recul, par exemple, de l'information internationale, qui recule systématiquement au détriment, je dirais, au profit de l'information dite de proximité, c'est-à-dire le « c'est arrivé près de chez vous ». Alors, « c'est arrivé près de chez vous », c'est à Noël, les concours d'éclairage de façade de Noël. C'est ça, ce sera cet été les paellas géantes en Catalogne, bon, ça sera un certain nombre. Mais c'est aussi, évidemment, l'effet d'hiver crapuleux, les crimes, les agressions, les voitures brûlées, etc. Alors, je passe, mais je me suis amusé à regarder l'ensemble des émissions de télévision qui étaient consacrées à l'insécurité entre 1995 et 2002. Par exemple, j'ai dépouillé toutes les émissions qui étaient consacrées avec qui sont les gens qui sont invités, qu'est-ce qu'on montre, etc. Bon. Grosso modo, retenez que l'idée que les médias ne font pas l'opinion. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a des formes de résistance par rapport à un message médiatique. C'est-à-dire notre histoire, ce que nous sommes, fait qu'on a des filtres par rapport à ce qui nous est dit à la télé. Personne ne croit aveuglément ce qui est dit à la télévision, par exemple. Bon. Mais si on dépouille qui étaient par exemple les invités, quels étaient les reportages qui ont été présentés, pour que vous ayez quand même quelques chiffres, si vous regardez qui a été invité pour parler des questions d'insécurité à la télévision, un tiers d'hommes politiques, c'est une question politique, un tiers de policiers, 20% d'experts. Certains d'entre vous, je le sens, pourraient objecter que des travailleurs sociaux, des travailleurs médicaux, des enseignants, y compris même des habitants de quartier, pourraient avoir des choses à dire sur l'insécurité. Tout ça cumulé représente 7% des invités sur les plateaux de télévision sur l'ensemble de cette période. Donc on puisse dire, si vous voulez, c'est que vous avez effectivement une vision, vous voyez, qui est quand même, qui donne la parole à certains interlocuteurs plutôt qu'à d'autres. Si vous regardez les reportages, c'est la même chose. J'ai les chiffres ici. 60% des reportages diffusés sur cette période mettent en scène l'action des forces de l'ordre et 80% de ces reportages mettent en scène l'action violente des forces de l'ordre, c'est-à-dire on est embarqué avec une voiture, un équipage de la BAC dans une course-poursuite, dans un jet de cailloux, etc. Alors, je vous disais, les médias ne font pas l'opinion, mais c'est très important, sur cette période-là, que vont faire les médias ? Ils vont homogénéiser la situation, les situations en les alignant par le bas, si bien que banlieue devient dans le discours médiatique synonyme de grand ensemble dégradé avec des jeunes à capuche en bas. Alors même que vous savez mieux que d'autres que banlieue renvoie à des réalités sociales, économiques, de logement, de peuplement tout à fait différentes. La question des banlieues, la thématique des banlieues dans les médias, c'est le grand ensemble dégradé avec des jeunes d'origine étrangère à capuche en bas. C'est ça. Deuxième idée, les médias vont diffuser des clichés qui vont devenir vrais à force d'être répétés. Si je vous dis des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, vous allez dire bah oui. Non, il n'y a aucune évidence scientifique en la matière. Je dirais, toutes les évidences scientifiques en France et dans un certain nombre d'autres pays européens ou aux États-Unis montrent plutôt le contraire. Bon. Qu'il y ait des prises en charge plus précoces des délinquants, c'est juste. Qu'il y ait un rajeunissement, rien ne l'atteste. La tolérance zéro à New York, ça a marché, ça a fait baisser la criminalité. Faux, nous disent tous les chercheurs américains qui ont travaillé sur la question. Ça a baissé bien plus ailleurs où on ne faisait pas de tolérance zéro, etc., etc. Mais vous voyez, ces clichés deviennent vrais à force d'être répétés. Dernier point, ils consacrent, si vous voulez, des interlocuteurs et des points de vue. C'est-à-dire que, vous voyez, sur cette période-là, vous avez une revalorisation très importante d'un discours sur la question de la sécurité, notamment du discours policier sur les matières en matière de sécurité. Et ça va avoir un rôle tout à fait important sur le groupe qui croit peut-être le plus à ce qui se dit dans les médias, parce qu'il en dépend, ce sont les hommes politiques. Vous avez un échange magnifique après le second tour, après le 28 avril 2002, où, je le rappelle pour les plus jeunes, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac, et c'est Olivier Mazerolle, qui est à l'époque directeur de l'information, qui dit à Jacques Chirac, mais en fait, M. Chirac, quand même, dans la campagne de 2002, vous en avez fait un peu beaucoup sur l'insécurité, non ? Et sous-entendant, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour ? Et Jacques Chirac, avec un grand sourire, lui dit, mais vous savez, monsieur Mazerolle, je regarde votre journal télévisé. Et qu'est-ce que je vois dans votre journal télévisé ? De la délinquance. Vous voudriez que je n'en parle pas ? Bon. Alors, c'est amusant dans ce contexte-là, mais je crois que c'est des logiques assez circulaires qui s'entretiennent, voyez, qui participent, voyez, à la construction du problème global de l'insécurité comme mode d'appréhension des quartiers populaires. Je passe sur, je vous l'ai dit, l'université, parce que j'ai pas le temps, donc je vous laisserai des questions, vous pouvez me dire des questions sur l'université. Mais retenez que l'université, quand même, deux idées qui sont importantes. La question sur la science sur la délinquance, il n'y a pas de criminologie en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de science autonome sur la question de la délinquance. C'est quelque chose de très hétéronome. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez interviennent sur cette question des psychiatres, sur cette question des éducateurs, des policiers, des sociologues, des psychologues. Tout le monde peut à peu près intervenir sur la question de la délinquance. Bon. Quand je dis tout le monde peut intervenir, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles pour trancher les différends. Tout le monde peut parler, on n'a pas de débat scientifique sur cette question. Bon, deux philosophes qui s'affrontent, bah, ils s'affrontent sur un débat philosophique avec des règles du jeu philosophique. Bon. Là, sur la délinquance, c'est très faible. Donc la délinquance dépend énormément des bailleurs de fonds administratifs, c'est-à-dire des administrations qui financent la recherche sur la question de la délinquance. Là, je vais être caricatural, mais absolument à outrance, donc ne retenez pas ce que je dis, mais je pourrais développer dans le détail ce que je vous dis. 80-90, le principal bailleur de fonds des recherches sur la délinquance, c'est le ministère de la Justice. La principale revue à l'époque, ça s'appelle les Annales de Vaucresson, c'est la revue de l'époque l'éducation surveillée, puis la protection judiciaire de la jeunesse. C'est la principale revue phare intellectuellement sur la question de délinquance. 90-2000, le principal bailleur de fonds, c'est le ministère de l'Intérieur. La principale revue, c'est les cahiers de la sécurité intérieure. Et je vous prie de croire qu'entre les deux revues et les deux bailleurs de fonds, ce ne sont pas les mêmes problématiques, et ce ne sont pas les mêmes questions. Et ce ne sont pas non plus les mêmes auteurs. Il y a un basculement, vous voyez, qui est tout à fait clair. Bon, alors, j'en arrive au dernier point de mon exposé, qui est, évidemment, je vous ai décrit, des transformations des quartiers populaires. Je dis, bon, vous voyez, grosso modo, vous avez des indisciplines nouvelles, grosso modo, des jeunesses populaires qui posent problème dans un certain nombre de quartiers. Cette question est ressaisie politiquement, académiquement, médiatiquement, si vous voulez, comme problème de société. Très bien. Mais cela, ce problème de société, il a en retour des effets sur les institutions en charge de l'encadrement au quotidien de ces indisciplines. Qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse de la justice. Et précisément sur cette période, ces trois institutions, pour ne citer que celle-là, on pourrait en citer d'autres, vont connaître effectivement une transformation assez importante de leur mission et de leur manière de les exercer. Alors, et ce, à plus forte raison, que là aussi, vous allez pas regretter d'être venu parce que vous vous en doutez pas, que cela se couple avec un mouvement de réforme plus vaste de l'État qui fait qu'on a une réduction de la forme et du format des services publics. C'est un double mouvement. Je vous disais, l'école. Alors l'école, qui est un thème sur lequel je vais plutôt laisser de la place au débat, mais retenez l'idée que dans un certain nombre de quartiers, la question, les missions de l'école, dans certains établissements scolaires, la question n'est plus tant la question de l'enseignement que la question de la scolarisation. On s'aperçoit, et là-dessus, si vous assistez à des contrats locaux de sécurité, par exemple, très souvent, c'est très intéressant de voir que, d'un côté, vous avez des directeurs d'établissements scolaires ou des enseignants qui sont, précisément, qui posent des questions d'enseignement, et des partenaires qui posent des questions de scolarisation. Quelle est la différence ? Ben, d'un côté, c'est la question de qu'est-ce qu'on transmet comme savoir, qu'est-ce qu'on forme, etc. De l'autre côté, c'est peu importe ce que vous faites, il faut que les enfants ne soient pas dehors. Parce que s'ils sont dehors, ils vont brûler des voitures. Et c'est là-dessus que vous comprenez les luttes au couteau qui existent dans un certain nombre de contrats locaux de sécurité, sur par exemple la question des exclusions scolaires. Exclusion, certains dans la communauté éducative disant, écoutez, il y a des gens qui sont trop perturbateurs, qui mettent en danger les chances collectives d'enseignement, donc il faut les expulser. Et d'autres qui disent, mais non, si vous les expulsez, ils vont être sur le quartier, donc c'est pas possible, etc. Et attention, je ne prends pas de point de vue sur l'un ou l'autre, je vous montre les affrontements qui existent. Bon. Vous avez une reformulation donc, des missions de l'éducation nationale avec cette question voyez, de la scolarisation qui va se traduire par notamment tous les mouvements qui vont sur les questions des portiques, la question des installations de policiers, les équipes mobiles de sécurité qu'on a mis en place, etc. Je laisse l'école, on pourra en discuter parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais je voudrais pas, je vais être beaucoup trop long. La justice, je passe aussi rapidement, mais la justice va être une des institutions qui va connaître la plus grande avalanche de textes. Les transformations législatives depuis grosso modo, la fin des années 90, est absolument considérable. Le nombre de circulaires pénales, de matières pénales, les transformations, alors les lois, plus les circulaires, plus un certain nombre de textes d'orientation pénale, je dirais, c'est tout à fait considérable. Avec deux idées, trois idées plutôt, sur la question de la justice, une accélération du traitement, une accélération du temps de traitement des affaires. C'est notamment la mise en place du traitement en temps réel de la délinquance, des chambres de comparution immédiates. Dès le début des années 90, vous avez une accélération du temps de traitement. Deuxièmement, cette accélération s'accompagne d'un durcissement de la réponse pénale. Un durcissement de la réponse pénale, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des peines plus dures sont prononcées pour des faits équivalents. Je disais souvent dans des conférences comme ça, sur le mode un peu de la plaisanterie, si on faisait la guerre des boutons aujourd'hui, il finirait en prison. Et il y a Bertrand Rotet, qui est un ami, qui a pris ça au mot, qui a pris le bouquin de la guerre des boutons et qui allait voir des substituts du procureur, des procureurs, des juges des enfants, des policiers, etc. Il leur a confié le scénario. Et en fait, ça a donné un livre qui s'appelle « Le Braque, 3 mois de prison ». Effectivement, Le Braque et ses compagnons terminent effectivement en prison. Et l'enquête, et c'était assez amusant parce que le processus, parce que précisément, c'était plutôt des juges, c'était plutôt des magistrats progressistes, grosso modo, qui ont traité cette histoire. Et ils ont découvert, malgré eux, je dirais que finalement, ils le foutraient en tôle au bout d'un moment. C'est-à-dire, grosso modo, ils disaient, oui, là, c'est pas possible. Bon. Donc vous avez, un durcissement pénal qui est tout à fait considérable, tout à fait important. Dernier point, c'est une extension de la sphère de ce qui est couvert par la thématique pénale, c'est-à-dire des faits qui, auparavant, n'étaient pas poursuivis par la justice, aujourd'hui, sont devant les tribunaux. C'est valable notamment pour tout un tas de cas de violence scolaire légère. C'est valable pour la fraude d'habitude dans les transports en commun, c'est valable pour l'occupation de halls d'immeubles, c'est valable pour tout un tas de choses qui sont devenues aujourd'hui des délits et qui sont poursuivies par les champs correctionnels. Pour vous donner une idée du durcissement quand même, vous savez que la justice des mineurs a la possibilité de traiter des mineurs en enfance délinquante ou en enfance en danger. Vous savez, le juge des enfants peut prendre des mesures au titre de l'enfance en danger, au titre de l'enfance délinquante. Et confier ces mesures, notamment à la protection judiciaire de la jeunesse. En 1990, que je ne dise pas de bêtises, vous aviez 75% des mesures qui étaient confiées au titre de l'enfance en danger, et 25% étaient confiées au titre de l'enfance délinquante. En 2002, vous aviez un renversement de perspective, 25% étaient confiées au titre de l'enfance en danger, 75% au titre de l'enfance délinquante. Et c'est un véritable basculement de proportion tout à fait important, vous voyez, qui se note dans l'activité même des services. Dernier point, la police. Alors la police, j'aimerais en parler pendant des heures, ce que je ne vais pas faire, évidemment. La police va aussi voir ses missions reformulées très largement à partir du début des années 80. Retenez l'idée que la police, ce n'est pas un métier, c'est des métiers. D'accord ? Ce qui sépare un enquêteur de police criminelle d'un ilotier dans un quartier, d'un agent d'un service de renseignement ou d'un CRS, c'est bien plus qu'une différence de mission. Si vous faites des études de trajectoire, par exemple, vous apercevez que le passage de service de renseignement à police judiciaire, c'est de l'ordre de 3% des carrières. 3% des gens qui ont commencé dans un service de renseignement qui passent ensuite en police judiciaire. Vous voyez, c'est vraiment des métiers tout à fait différents. Et entre ces métiers, vous avez des hiérarchies. Traditionnellement, le grand criminel faisait le grand policier. D'ailleurs, pas un hasard, si toutes vos séries télévisées, si tous vos films hollywoodiens mettent en scène des policiers de police criminelle. En réalité, l'activité ordinaire des policiers, c'est pas d'arrêter des assassins. Fort heureusement, il y a très peu d'assassins, et encore moins des assassins en série. Non. C'est une étude aux États-Unis, c'est intéressant, dans les séries télévisées, c'est 47% des séries policières mettent en scène des assassins en série, qui représentent 0,01% de la délinquance aux États-Unis. Donc, grosso modo, c'est un peu une surreprésentation. Ne pensez pas que les États-Unis sont clafis de serial killers qui assassinent à chaque épisode, à chaque semaine un ou plusieurs. Non, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Bon. Bref, donc grosso modo, vous avez la hiérarchie, si vous voulez. Donc le grand policier, le grand criminel faisait le grand policier, donc traditionnellement, la police judiciaire était sur le haut du panier. C'est-à-dire que grosso modo, y compris dans la sécurité publique, c'est-à-dire celle qui s'occupe de la sécurité quotidienne, je dirais, les tâches judiciairement faibles, si vous voulez, qui n'ont pas de rapport judiciaire, sont traditionnellement peu valorisées. Bon. L'îlotage, ça a été pendant très longtemps là où on a mis les bras cassés. Dans les années 80, l'îlotage, c'est là qu'on mettait les alcoolos qu'on ne voulait pas ailleurs. Je caricature, mais à peine. Grosso modo, vous aviez bien sûr, vous aviez quelques îlotiers qui étaient tout à fait convaincus. À Toulouse notamment, où j'ai fait mon terrain, il y avait des gens qui avaient essayé de théoriser ça, enfin qui étaient vraiment engagés, mais généralement, on mettait là ce qu'on ne voulait pas ailleurs. Bon. Grosso modo, les différentes réformes de police qui vont avoir lieu à partir du début des années 80 vont toutes aller dans le même sens, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la police s'engage davantage sur les questions de petites et moyennes délinquances, mais essentiellement de petites délinquances. Alors, ça va poser un certain nombre de problèmes et un certain nombre de questions, parce que, précisément, la police française est très bonne, très efficace, pour ce qui est la police judiciaire. On est très bon en police judiciaire, on sait très bien mener des enquêtes. Précisément, d'ailleurs, les homicides, ce genre de choses, les taux d'élucidation sont très très élevés. Très très élevés, vous avez de l'ordre de 90% d'élucidation pour les homicides. Bon. Alors, grosso modo, n'essayez pas de tuer votre gens, vous risquez vraiment de vous faire attraper. Bon. On est très très bon aussi pour le maintien de l'ordre. On a une vraie doctrine en matière de maintien de l'ordre, c'est-à-dire que ce soit les CRS ou les gendarmes mobiles...
On veut même l'exporter en Tunisie.
On veut même l'exporter en Tunisie, et tout à fait, mais c'est tellement intériorisé par quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur que immédiatement, spontanément, effectivement, on dit « mais attendez, on sait faire. Vous, vous tirez dans le tas, vous tuez des gens, nous on va vous montrer qu'on sait gérer les foules sans tuer les gens. » Et c'est vrai que le dernier mort dans une manifestation, c'est Malik Oussekine, 1986, et c'est pas des CRS ni des gendarmes mobiles qui étaient à l'origine de cela.
Des voltigeurs.
C'est des voltigeurs motocyclistes qui étaient tout à fait autre chose, qui ont été d'ailleurs dissous après. Mais alors, par contre, on a d'énormes problèmes en matière de petite délinquance. Pour une raison très simple, c'est que vous avez un consensus assez général dans le monde, grosso modo, dans le monde anglo-saxon, mais pas simplement, en Hollande et ailleurs, pour l'idée que la question de la petite délinquance, en fait, il faut des policiers connus et reconnus sur un territoire. C'est-à-dire que, grosso modo, des policiers qui sont présents, qui connaissent les individus, qui sont connus. Ce qui, d'ailleurs, toute proportion gardée, est ce que faisait la gendarmerie jusqu'à il y a une date très très récente. 50% du temps de la gendarmerie était ce qu'on appelait la surveillance générale. La surveillance générale, ça suffit, ça veut dire patrouiller sur un territoire restreint, discuter avec la boulangère, discuter avec un certain nombre de gens, etc. Ça, il y a eu une tentative... Il y a eu plusieurs tentatives. La dernière en date, vous en avez entendu parler forcément, c'était la réforme de la police de proximité, lancée en 1998, en disant, on va faire une police comme ça, connue, reconnue. Vous vous souvenez aussi peut-être, moi j'étais sur un des sites pilotes, qui était Toulouse à l'époque, et que Nicolas Sarkozy, donc alors ministre de l'Intérieur, avait rompu avec fracas avec cette police qui jouait au rugby avec les jeunes délinquants, etc., que c'était scandaleux. En réalité, l'échec de la police de proximité n'est pas lié à ce que les policiers jouaient au rugby avec les jeunes délinquants, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque en réalité, c'est le cabinet de Sarkozy qui avait demandé qu'on organise cette rencontre pour pouvoir la filmer. Bon. Alors, Jean-Pierre Avrin, je connais bien, qui était le directeur départemental de la sécurité publique, a monté ça, il a été humilié en public, on lui a dit « c'est mal », il a négocié en échange un poste qui était pas mal, il aimait le foot, pas le rugby, mais le foot. Donc on lui a confié les équipes de foot de la police. Donc il est allé en Afrique du Sud, il est allé en Australie, etc. Bon, voilà, et on n'a pas rendu, il n'y a pas eu un placard un peu doré. Puis il a quitté la police à la retraite et il est devenu conseiller à la sécurité de la municipalité socialiste de Toulouse avec l'alternance. Bon. Donc, grosso modo, l'histoire de la police de proximité, la déclaration de Nicolas Sarkozy, évidemment, elle est martiale, on est après 2002, dans une campagne sur la sécurité, il faut rompre évidemment avec ce qu'avaient fait les socialistes avant, il faut montrer qu'on est bien différent. La réalité de la fin de la police de proximité, c'est tout simplement une question de moyens. C'est une simple question de moyens. Pour une raison très simple, qu'est-ce qu'il faut pour... Vous avez une circonscription de police, c'est la zone que couvre un commissariat. C'est divisé en îlots. Je vais rentrer dans le détail très technique, mais donc une circonscription, c'est divisé à peu près en une vingtaine d'îlots, qui sont l'unité de base opérationnelle de la police. Bon. Il vous faut, si vous faites de l'îlotage, si vous faites de la police de proximité, il vous faut, au moment T, il vous faut 3 policiers par îlot. Donc 3 fois 20, 60 policiers. Avec 2 brigades anti-criminalité, c'est-à-dire 2 fois 3 hommes en voiture, vous couvrez la circonscription. C'est-à-dire 6 hommes versus 60. Le calcul a été extraordinairement fait dans un contexte de réduction des moyens de l'État. Grosso modo, on a choisi la police d'intervention parce qu'elle est beaucoup plus économique en matière d'effectifs, de personnel, etc. Alors, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que la police d'intervention, type brigade anticriminalité, c'est très très efficace. Quand vous avez une rixe, par exemple, entre deux groupes, vous avez un flagrant délit à faire, c'est des unités qui saute dessus, qui arrive évidemment tout gyrophare dehors, qui saute dessus et qui arrête. C'est beaucoup moins efficace quand il s'agit de faire du contrôle quotidien. Par exemple, des jeunes en bas d'immeuble qu'on va contrôler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez un vrai déphasage, si vous voulez, entre l'efficacité d'une police d'intervention et ce pourquoi est-ce qu'on l'emploie. Évidemment, ça va poser des problèmes. On est sur des groupes de jeunes dont je voulais parler, en bas d'immeubles, etc. Donc des relations groupe de jeunes versus groupe de jeunes. Puisqu'il faut savoir qui sont les policiers qui sont bien sûr affectés dans ces unités en région parisienne. Ce sont des policiers jeunes, puisque c'est les sortes, vous savez que les policiers sont fonctionnaires, comme les enseignants d'ailleurs. Et on a des points. Alors, plus on avance, plus on a de points. Et donc, vous avez les vieux policiers, ben, ils redemandent à aller... Alors, sociologiquement, c'est qui le profil du policier de base aujourd'hui ? C'est simple. Le profil du policier, c'est classe moyenne, bas des classes moyennes, petit artisan pour les parents, hein, ou employés. Les départements de prédilection, c'est la Creuse, les Pyrénées-Orientales, le Nord, et ces petites villes, moins de 50 000 habitants. Moins de 50 000 habitants, c'est Bergerac, par exemple, Dordogne, très jolie. Donc vous êtes affecté à Sarcelles. Bah, très souvent, vous avez un policier qui se retrouve, qui ne connaît pas le paysage urbain, il n'y comprend rien, c'est pas la même chose. Des populations qu'il ne connaît pas. Très souvent, pas d'anciens avec lui, c'est-à-dire que les gens qui sont avec lui ont le même âge, pas beaucoup plus d'expérience. Donc ça fait très souvent des policiers qui ont peur et qui se braquent immédiatement. Dès qu'il y a des insultes, ça donne des outrages, etc. Et vous avez des relations rugueuses, que j'appelle moi une rivalité mimétique, entre groupes de jeunes et groupes de jeunes policiers. C'est dans un entretien, on racontait, c'était assez amusant. C'est, il y en a un qui disait « Toi, il y a marqué Lacoste, moi, il y a marqué police. » Ouais, certes, mais pas que. Bon, voilà. Donc, des relations rugueuses, si vous voulez, et qui sont résolues comment ? Par la montée en puissance technologique. C'est-à-dire que, pour résoudre ces relations rugueuses, on va doter ces unités d'armement plus important. Les flashballs, d'abord, qui tirent des balles en caoutchouc, puis les tasers, qui tirent des dards électrifiés. Et puis on se rend compte que les flashballs, c'est pas suffisant parce qu'il y a des jeunes qui apprennent à jouer du flashball, c'est-à-dire bah, si vous mettez trois blousons, le flashball à 15 mètres, il est plus efficace, donc on va faire des flashballs plus puissants. Et puis à un moment donné, on va tirer sur quelqu'un qui n'a pas trois épaisseurs, et puis voilà, et puis, donc, ça va créer un certain nombre d'engrenages, si vous voulez, d'escalade. Et à tel point que cette escalade, on en est tellement conscient, si vous voulez, que qu'a fait Alliot-Marie quand elle est revenue au ministère de l'Intérieur, elle a dit, on va créer. Alors quelque chose, c'est vraiment pas de la police de proximité, c'est vraiment pas ça, ça s'appelle des UTEC. C'est des policiers qui sont connus, reconnus sur un territoire. Alors c'est vraiment pas la police de proximité, c'est vraiment tout autre chose.
UTEC.
UTEC, unité territoriale. Non, c'est exactement de la police de proximité. Elle a fait. Et Hortefeux a suivi là-dessus. Sauf que Hortefeux a dû reculer sur ces UTEC là aussi. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les moyens de les développer. Et là, j'ai fait un entretien récemment avec le directeur de la police générale de la police nationale, Frédéric Pechenard. Le dernier élément en date, si vous voulez, c'est maintenant les polices d'agglomération. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte, je le cite parce que la phrase, je trouve, mérite à son pesant de cacahuète. Il dit, on va substituer des stocks de au stock de policiers, on va substituer des flux de policiers. C'est quoi les stocks et les flux ? Ben, c'est qu'avant, il y avait des commissariats. Donc, dans une circonscription, ça brûlait. Dans la circonscription à côté, on imaginait les gars qui jouaient à la belote, etc. Donc, on dit maintenant, non, on aura une seule circonscription. Donc, par exemple, ça s'est fait à Lille-Roubaix-Tourcoing. Lille-Roubaix-Tourcoing, c'est maintenant une circonscription de police. Lyon, ça va être une circonscription de police. Marseille, ça va être une circonscription de police. Bordeaux, ça va être une circonscription de police. Vous avez vu la réforme de la police parisienne, c'est-à-dire aujourd'hui, la préfecture de police de Paris a compétence sur toute la petite couronne. C'est ça. Et on va créer une sorte de super bac circonscription, par exemple à Lille, pardon, c'est une bac de 180 personnes. Et donc à Paris, ça veut dire qu'on traversera donc du Val-de-Marne, on ira au fin fond de la Seine-Saint-Denis pour intervenir, toute sirène hurlante. Donc c'est-à-dire qu'on va, vous voyez, renforcer quelque chose dont on sait parfaitement que ça ne fonctionne pas, que c'est dysfonctionnel, pour des raisons qui sont là réellement des questions d'économie budgétaire. Alors je termine vraiment en disant que ça c'est un élément donc tout à fait important, qui, évidemment, cette question des moyens pousse aussi, si vous voulez, vers la question de du partenariat. C'est-à-dire qu'on délègue de plus en plus aussi à ce qu'on appelle les partenaires. Alors, notamment, c'est là qu'il faut lire, si vous voyez, le fait que, par exemple, on pousse à l'installation de la vidéosurveillance, par exemple, sur les municipalités. Les policiers sont tout à fait partisans qu'on développe la vidéosurveillance partout, dès lors qu'ils n'ont pas à la gérer. C'est-à-dire que quand vous leur dites « Est-ce que vous êtes prêt à la gérer ?» Ils disent « Non, ça ne va pas ». L'investissement humain, matériel, financier, pour les résultats que ça procure, est tout à fait hors de propos. C'est le chef de la police, de la vidéosurveillance de la police de Londres, qui dit, c'est très simple, il dit, c'est un gaspillage de temps et d'énergie. C'est le gars qui est en charge de ça. Il dit, ça a des fois un peu d'utilité. Ils disent, pour nous, on évalue son efficacité à 3% des cas. Bon. Donc 3%, vous demandez à des policiers ici, 3%, ils ne sont pas prêts à investir du temps, de l'argent et de l'énergie pour ça. Maintenant, si c'est la municipalité qui investit du temps, de l'énergie et qu'eux peuvent juste récupérer les bandes quand il faut, ils sont tout à fait d'accord. Bon. Donc c'est ça. Et c'est évidemment donc la structure aussi vers des structures privées. Vous avez peut-être vu que précisément la LOPSI 2 va en ce sens, notamment en externalisant vers un certain nombre de sociétés privées tout un tas de charges, y compris d'ailleurs par exemple le transfert des sans-papiers vers des centres de rétention, vers les institutions administratives, par exemple. Bon, alors je voudrais juste, pour vraiment conclure, dire que la question qui se pose, vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, la question de l'insécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre en réalité à la fin des années 70, 80 ou en 2002. Vous avez des périodes de l'histoire de France où vous aviez des niveaux d'insécurité bien supérieurs, si vous voulez. La révolution industrielle, la fin du 19e, par exemple, les taux d'homicide étaient absolument considérables. Vous aviez un exode rural tout à fait important, donc prostitution, délinquance, alcoolisme, vous aviez tout cela. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que qu'ont fait les réformateurs sociaux, c'est-à-dire les gens qui étaient préoccupés précisément par l'idée d'essayer de résoudre ces problèmes-là. Ils avaient compris très tôt qu'il existait un lien assez mécanique entre la stabilité des existences et la stabilité de l'ordre social. Je vais citer Jules Siegfried, qui était l'un des fondateurs des cités ouvrières, qui disait « Veut-on créer des ouvriers de bonne moralité, disciplinés et soucieux d'éviter les erreurs socialistes ?» Ça, c'est le moment, hein, c'est la fin du 19e. Ils disaient « Créons des cités ouvrières ». Cités ouvrières, c'était l'ancêtre du logement social. C'est-à-dire qu'ils avaient compris, si vous voulez, que la stabilité des existences des ouvriers, c'était précisément ce qui permettait de faire diminuer les désordres. Et je crois que c'est sans doute pas un hasard qu'alors même qu'on a vu ressurgir des formes de précarité existentielle très dures, très brutales, dans certaines fractions des milieux populaires, et de leur jeunesse notamment, je dirais, on est aujourd'hui, vous voyez, des discours qui sont, et je crois que c'est très important, c'est ce que j'essaie vraiment de montrer dans ce travail, c'est on n'a pas un Big Brother, on n'a pas, vous voyez, un projet qui serait le talon de fer avec lequel on va essayer d'écraser les dominés. On a des tentatives éclatées, un peu échevelées, parfois incohérentes, de restaurer de la discipline. Ça va être les enfants de moins de 3 ans, qu'on va essayer, on va dire, il faut mettre des psys sur les enfants de moins de 3 ans, on va dire, il faut mettre de la vidéosurveillance, puis il faut mettre des bacs, puis il faut mettre, etc. Vous avez des tentatives assez, je veux dire, pour essayer de reconstituer, vous voyez, des formes de discipline dont on déplore la disparition. Or, je crois que si on réfléchit à la comparaison historique entre ces deux périodes, finalement, pourquoi la discipline a fonctionné? La discipline industrielle a fonctionné parce qu'elle offrait des contreparties. Grosso modo, les ouvriers ont arrêté de protester ou de faire des illégalismes, comme on disait à l'époque, parce que, grosso modo, leurs conditions d'existence se sont améliorées. Aujourd'hui, j'ai un peu peur que l'ensemble des discours que l'on voit soient précisément des tentatives de disciplinarisation à sens unique, je dirais. Et que ces tentatives, elles aient d'autant plus de chances d'être vécues comme injustes, comme arbitraires, comme discriminatoires par ceux sur lesquels elles s'exercent, que précisément, elles sont incapables d'apporter ce mieux-être qui était la base des anciennes disciplines. Je vous remercie.